La première.
Tout autre chose.
Pierre, diminue la musique parce qu'on a déjà donné mal à la tête à certaines personnes, donc on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Nous parlons migraines, céphalées, maux de tête dans cette émission et nous essayons d'apporter un petit peu de réconfort à ceux qui souffrent et surtout réponse à vos questions grâce à notre invitée, le docteur Catherine Gilin qui est avec nous et qui est neurologue. Et puis je vous rappelle que mercredi, ce sera la journée européenne de la migraine et qu'à cette occasion, la Ligue belge contre les céphalées et la Belgian Headache Society organisent conjointement une conférence à destination du grand public. Cette conférence aura lieu à l'hôtel Novotel de Diguem à partir de 19h30 avec participation de différents médecins qui seront là également pour répondre à vos questions. N'hésitez donc pas à prendre vos renseignements auprès de la Ligue belge contre les céphalées. Autre témoignage qui nous sont arrivés, je le disais, beaucoup nous parlent de migraines ophtalmiques. Docteur Gilin, Christiane a 70 ans, elle souffre de la tête depuis des années. La douleur a été maîtrisée car on a découvert que cela venait de cervicales et des migraines ophtalmiques. Elle a été soignée par un rhumatologue, chiropracteur et par un acupuncteur. Je souffre de céphalées régulièrement, une à deux fois par mois. Depuis 3 ans, elles sont accompagnées de problèmes ophtalmiques qui durent plus ou moins 30 minutes. Personne n'a encore pu me donner une réponse. Quant à mon mal, c'est un témoignage de Jamila. Parlez-nous des migraines ophtalmiques. Merci Marie de Branchon. Et puis je souffre plus ou moins régulièrement de migraines ophtalmiques. Cela commence par des sensations visuelles, style kaléidoscope. Puis vient un mal de tête du côté droit et cela se termine par une grande fatigue. La crise dure entre une demi-heure et 2 à 3 heures. Je n'ai jamais pu avoir d'explication satisfaisante pour ce phénomène clair. Je souffre depuis quelques années de céphalées et parfois de migraines ophtalmiques. Pendant près de 30 minutes, mon image visuelle se décompose et je ne vois plus. C'est assez handicapant. J'ai consulté de nombreuses fois mon médecin traitant et un ophtalmologue également, qui m'ont dit que mes yeux n'avaient rien. J'ai essayé l'acupuncture, la sophrologie, qui m'aident bien, mais n'éradiquent pas les migraines. Qui dois-je consulter? Un neurologue serait-il une bonne idée?
Docteur Catherine Gilin, neurologue.
Mais oui.
Je vous vois, vous agitez plus.
Mais oui. Bien sûr. Bon, ce qu'on appelle la migraine ophtalmique, actuellement, on préfère lui donner un nom plus précis, c'est la migraine avec aura visuelle. Alors, parlons des auras, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important dans la migraine. Donc, la classification donne soit des migraines sans aura, soit des migraines avec aura. Qu'est-ce que c'est l'aura? L'aura, c'est un trouble neurologique focal transitoire. Le plus souvent, 80-90% des cas, c'est une aura visuelle. On va la décrire tout de suite. Ça peut être aussi un trouble de la parole, un trouble de la sensibilité, voire une faiblesse d'un membre. Mmh. C'est-à-dire que durant la migraine, il y a des modifications de la circulation sanguine régionale dans certaines zones, et qui se traduisent par des altérations de fonctionnement de cette zone. Alors les auras visuelles, typiquement, c'est ce que cette dame a décrit, le genre kaléidoscope, le genre point lumineux dans un champ visuel puis qui s'étend, des mouches toujours scintillantes qui s'étendent progressivement, ou alors au contraire une tache noire vraiment sur l'endroit où on doit lire, les gens sont incapables de lire. Alors l'aura, le plus souvent, précède la douleur, généralement sur l'heure qui précède la douleur, mais elle peut parfois être concomitante, voire, ça c'est assez particulier, ne pas être suivie de douleur. Là, le diagnostic différentiel est difficile à faire avec un vrai trouble neurologique plus permanent, et donc l'aura doit disparaître. C'est en général la même aura qui revient chez le même patient, mais parfois un patient peut malheureusement faire aussi plusieurs auras qui s'étendent. Par exemple, ça peut commencer en aura visuelle et puis se continuer en aura sensitive ou en aura phasique. Alors, les auras sont importantes à considérer parce que elles vont aussi déterminer une approche de traitement un petit peu différente. D'abord, les triptans dont on parlait ne sont pas actifs durant la phase d'aura. Il n'y a pas encore la modification de la sérotonine, donc il ne faut pas les prendre à ce moment-là, ça ne sert à rien. Par contre, les anti-inflammatoires, oui, là, sont efficaces. Et si la douleur survient quand même, le patient peut prendre son triptan par la suite, il n'y a pas de contre-indication. Les auras sont aussi très, très interpellantes parce que on a mis en évidence chez pas tous, mais beaucoup de patients souffrant de migraines avec aura, qu'il y avait la persistance d'une petite anomalie au niveau cardiaque. Mm-hmm. On avait parlé un peu à l'émission précédente, mais c'est important de revenir dessus. Donc, durant la vie fœtale, comme il n'y a pas de respiration, il y a une communication entre le cœur droit et le cœur gauche. Et au moment de la naissance et avec la mise en route des poumons, cette communication théoriquement se ferme. On appelle ça le foramen ovale. Il y a 5% de la population générale qui a un foramen ovale qui reste un peu ouvert mais sans aucune conséquence. Mais parmi ces 5%-là, il y a quand même un quart qui ont des migraines avec aura. Alors on a, au début, on s'est vraiment précipité là-dessus, on a dit voilà, on a trouvé, les auras, ce sont des troubles circulatoires dus à des embolies paradoxales qui passent donc du cœur droit vers le cœur gauche, et donc on a proposé des fermetures chirurgicales de ce foramen. Ce sont pas, on ne fait pas à cœur ouvert du tout, on introduit par l'artère fémorale une sonde, mm-hmm. et on va mettre une espèce de petit parapluie pour fermer ce pertuis persistant. Alors c'est vrai qu'il y a des cas qui répondent vraiment très très bien. Moi, j'ai le souvenir d'une patiente qui était une migraineuse avec aura visuelle extrêmement, extrêmement sévère et invalidée, qui n'en a plus du tout depuis. Mais n'empêche qu'un cas n'est pas l'autre, et qu'actuellement il y a une grande étude très très large au niveau européen et même plus, parce qu'on n'est pas encore certain que statistiquement ce soit réellement aussi significatif de ça d'aller fermer. Mais de toute façon, il faut être prudent. Quand quelqu'un a une migraine avec aura, ça vaut la peine de faire cet examen cardiaque qui n'est pas invalidant. Ça vaut la peine de faire une IRM cérébrale de manière à voir si éventuellement il y a déjà des traces de petite ischémie qui se sont déroulées, parce qu'on doit faire attention beaucoup plus au suivi de ce patient-là. Et alors aussi, certains médicaments sont contre-indiqués. Pour les auras, il vaut mieux ne pas donner des dérivés de l'ergotamine, donc le cafergo, que l'on donnait beaucoup avant les triptans. Il faut être prudent avec les bêta-bloquants. Donc on a aussi une orientation traitement qui est un peu différente. Mais les auras visuelles sont extrêmement fréquentes, et je trouve peut-être un petit peu dommage si cette patiente a réellement consulté son ophtalmologue, qu'il n'ait pas réagi, parce que ça fait partie normalement de leur connaissance.
On peut aider avec l'acupuncture, ça a marché dans un cas, pas dans l'autre. On avait deux témoignages, une pour qui la chiropractie et l'acupuncture avaient donné de bons résultats. Ça peut aider, mais j'imagine que ça n'apporte pas une guérison à long terme.
Alors ça fait partie du fait que bon, les migraineux, c'est connu, ce sont des gens en général méticuleux et anxieux. En plus de ça, le stress, l'anxiété.
C'est pas moi, ça.
Le stress, l'anxiété sont des facteurs favorisants évidents des migraines. Donc, il faut bien comprendre, on est migraineux au départ, mais on va utiliser cette sensibilité physique comme une espèce de tendon d'Achille sur lequel justement le stress va s'exprimer. Ok. Donc, tout ce qui peut nous permettre de gérer nos facteurs favorisants, dont le stress, donc tout ce qui peut amener une détente physique et morale, sera bienvenu. Maintenant, l'acupuncture aussi, on le sait, provoque une décharge d'endorphine, donc notre propre morphine naturelle. Et donc là, c'est, si vous voulez, un traitement anti-douleur de fond que l'on provoque un petit peu, qui est malheureusement relativement transitoire, mais c'est vrai qu'il peut donner de bons résultats. Et une fois de plus, autant les gens sont invités à reconnaître tous leurs facteurs favorisants, autant justement en fonction de ces facteurs favorisants-là, d'orienter les différentes prises en charge. Et souvent, tout ce qui permet de diminuer les doses de stress, parce que c'est valable pour tout le monde, hein, l'asthmatique qui fera plus de crises d'asthme aussi parce qu'il est stressé, il a intérêt aussi à faire toutes les techniques de relaxation. Alors, c'est comme les activités sportives.
Alors, on va y revenir, oui, parce qu'on a trois témoignages, dont celui d'une auditrice qui, souffre de maux de tête liés au sport, du step, du fitness. Elle en a fait beaucoup et après une demi-heure, la douleur monte. Elle l'a consultée, mais les médecins n'ont jamais trouvé de solution, nous dit-elle. Et puis l'autre témoignage, c'est celui de Laurent. Je pratique le sport d'endurance plusieurs fois par semaine. J'ai systématiquement des céphalées après mon activité sportive si je dépasse un certain seuil d'intensité pendant l'effort. On m'a dit que c'était dû au changement de pression sanguine au niveau du cerveau. Est-ce correct et comment y remédier? Je ne suis pas retombée sur le troisième témoignage, mais il y avait aussi un troisième sportif qui nous disait qu'il avait du mal à finir ses exercices dans sa pratique sportive.
Alors, une chose, c'est que parmi les critères de définition de la migraine, il y a le facteur favorisant l'activité physique, mais je parle durant la crise. C'est-à-dire que ça fait partie des symptômes qui vont nous permettre de reconnaître un caractère migraineux. Quand quelqu'un est en crise, le fait de monter un escalier, de porter une charge lourde, va augmenter la crise migraineuse. Ça aussi, ça peut être un facteur déclenchant. On parle de migraine vraie, mais aussi de céphalée. Là, il faut faire la différence. Donc, c'est vrai qu'un migraineux qui fait un sport intense, du step comme cette dame, ou du vélo intensif, peut favoriser le développement de sa crise migraineuse. Maintenant, l'activité physique douce, par contre, étant relaxante, peut diminuer la fréquence des crises. Donc, une fois de plus, il faut être un petit peu tempéré dans son choix. Si on est migraineux, je vous conseille alors de faire une activité physique régulière et plutôt modérée, mais pas des choses intenses. Maintenant, quelqu'un qui a systématiquement des maux de tête en faisant du sport, je crois qu'il devrait consulter aussi, parce que c'est vrai qu'on augmente la pression cardiaque, on augmente tout ça, ça peut jouer, mais il peut aussi avoir des blagues. Donc, il faut peut-être mieux faire une petite mise au point.
Donc, Nancy, au yoga et Laurent à la consultation, voilà. Si possible. Voilà. Il n'y a pas de solution. Enfin, je veux dire, Nancy ne pourra pas pratiquer son sport tranquillement. À chaque fois qu'elle le pratiquera, elle aura un souci. Donc, tout il faut qu'elle, d'office, qu'elle diminue.
Si c'est une migraineuse vraie, on peut éventuellement, si elle tient absolument à son step, lui proposer un traitement de fond. Si par exemple c'est quelqu'un dont c'est le métier, si elle est prof de gym, ça vaut la peine. Si par contre c'est vraiment parce qu'elle a envie de se faire du bien, ben, elle peut se faire du bien en étant moins intense dans ses exercices.
On va revenir sur quelques questions en vrac juste après Sandrine Kimmerlin.
Ça y est, c'est fait, j'ai un micro. Sur scène, je bois de l'eau, c'est pour la voix. Je fais même des gammes, des vocalises. Je pars en tournée, je fais mes valises. Et oui, c'est vrai, ça prend du temps. C'est l'écriture, c'est très prenant. Je fais des brouillons et des ratures. Et puis, j'ai travaillé l'allure. Je suis chanteuse et je m'y crois. Faut que je déjeune avec Carla et Vanessa pour parler de ça. J'ai des musiciens avec moi, ensemble on fait wah wah choua. On est toujours bien assortis, on a bossé pour l'harmonie. Ils font les garçons, moi la fille, c'est important d'être précis. J'ai bien retenu toutes mes paroles, vous voyez pas quand je m'affole. Je suis chanteuse et je m'y crois, faut que je déjeune. J'ai travaillé quelques mouvements, je bouge mon corps instinctivement. Bien sûr, tout le monde n'a pas ce talent, moi j'y peux rien, j'ai ça dans le sang. Et je commence au bon endroit, je tiens la note comme il se doit. Do, ré, mi, fa, sol, et puis là, ça impressionne quand je fais ça. Je suis chanteuse et je m'y crois, faut que je déjeune. Je suis debout ou bien assise, je peux danser, on sait jamais. Et puis je prends bien la lumière, vous trouvez pas que j'ai des faux airs de Mylène et de Madonna? Je sais, c'est prétentieux de dire ça, mais faut avouer que c'est frappant. La ressemblance, c'est évident. Je suis chanteuse. Chanteuse et je m'y crois, faut que je déjeune.
Sandrine Jackie Berlin chante donc la chanteuse. Il est 11h19, nous sommes encore ensemble jusqu'à 11h30. On va essayer de répondre à quelques questions qui nous sont arrivées en vrac, et notamment du point de vue des traitements. Certains ont essayé, bon, on l'a dit, hein, Catherine Gillin, c'est pluridisciplinaire souvent. Il faut essayer d'avoir des choses qui vous aident à passer le cap de ces crises et essayer d'évacuer de sa vie les facteurs favorisants qui sont très différents d'une personne à l'autre. D'où l'intérêt aussi d'être très, très attentif à tous les phénomènes qui peuvent se passer avant une crise ou après une crise.
C'est pour ça qu'il existe ces fameux petits agendas édités grâce à la Ligue d'ailleurs et qui sont extrêmement utiles. C'est un agenda mensuel où le patient est invité à noter ses crises et notamment tout ce qu'il peut reconnaître comme facteur favorisant éventuel, plus les effets des différents essais médicamenteux. Et c'est très interpellant parce qu'il y a des gens qui découvrent des choses auxquelles ils n'avaient pas du tout fait attention et il suffit, entre guillemets, de les éviter pour éviter pas mal de crises. Donc c'est vraiment utile, c'est un petit peu fastidieux au départ et encore de noter, mais ça permet d'identifier le profil personnel, ça c'est essentiel.
Quelques questions en vrac. Jean-Marie, est-il bénéfique de se coucher dans le noir quand on a mal à la tête?
Oui, parce que parmi les critères de la migraine, il y a ce qu'on appelle la photophobie, c'est-à-dire l'hypersensibilité à la lumière, qui en soi peut être un facteur déclenchant aussi chez certains patients, plus une phonophobie, donc une intolérance au bruit. Et donc, c'est vrai qu'idéalement, aller s'allonger dans le noir, dans le calme, si possible dans une pièce aérée, et c'est vrai avec quelque chose de froid sur la tête, peut certainement améliorer, d'autant si on parvient à s'endormir. Parce que figurez-vous que pratiquement tous les migraineux qui parviennent à s'endormir se réveillent libres de la douleur.
Ah oui, donc effectivement.
C'est très efficace.
À essayer. Autre question en vrac, Hélène, la fumée de cigarette peut-elle être la cause de forts maux de tête? C'est un peu ce que disait Véronique, qui elle avait effectivement comme facteur déclenchant, en tout cas, favorisant la fumée de cigarette.
Ça peut être un facteur favorisant, bon, le tabac actif ou passif. Plus un facteur de maux de tête si quelqu'un vit dans une ambiance très confinée, hein, ça bien sûr. Et puis à long terme, bon, vu les effets au niveau artériel de la cigarette, ça peut effectivement aussi entraîner des modifications de céphalée plus générale, je dirais.
Autre témoignage qui nous sont arrivés qui parle d'allergies. Est-ce que certaines allergies peuvent provoquer céphalée, migraine ou maux de tête? La personne précise dans son cas qu'il s'agit d'une allergie au polyester, aux vêtements en polystyrène. Je vais essayer de retrouver son témoignage, ainsi qu'une allergie alimentaire qui provoquerait des maux de tête.
En fait, on dit que c'est allergique et en fait, c'est pas allergique, c'est une sensibilité aux facteurs déclenchants. Parce qu'on a prouvé que c'était pas une allergie dans le sens que ce n'est pas dépendant des, si vous voulez, des cellules immunitaires allergènes du corps.
C'est ça.
Donc, ce n'est pas en termes scientifiques, une allergie. Par contre, comme les gens réagissent à un certain facteur externe, ils parlent d'allergie, mais une fois de plus, c'est un facteur déclenchant.
J'ai retrouvé son témoignage, c'est au lait et à l'éthylène de glycol qui se retrouve dans les vêtements en polyester. Et elle dit que ça va beaucoup mieux depuis qu'elle met des vêtements qui sont en fibres naturelles.
Oui, parce qu'elle évite ces facteurs déclenchants. Mais si, par exemple, elle se disait, tiens, c'est une allergie, je vais prendre un anti-allergique, ça ne va pas marcher.
On reparle bien sûr de ces céphalées avec quelques demandes qui nous sont quand même arrivées sur les céphalées des enfants. Là, un enfant peut-il souffrir?
Tout à fait. La migraine existe chez l'enfant. On estime qu'il y a 4 à 10% des enfants quand même qui en ont, ce qui est pas mal. Et alors c'est une migraine qui est beaucoup plus particulière parce que elle est moins floride au niveau symptômes. C'est un petit peu plus insidieux comme mise en place. C'est une douleur qui est plus volontiers frontale, bilatérale, assez mal définie. C'est un enfant qui devient grincheux, un peu irritable, qui se plaint aussi souvent de mal de ventre, mais un mal une fois de plus, qui ne correspond pas à mal digestif. C'est plutôt autour du nombril, c'est assez vague. Et puis ça passe tout seul au bout d'une heure ou deux. Ou alors, il y a aussi une migraine très particulière qui est le torticolis spasmodique de l'enfant, où l'enfant commence à être un peu à marcher de façon instable, vertigineuse. Et puis, il a une torsion de la tête importante et c'est ce qu'on appelle un équivalent migraineux. Ça vaut la peine de le reconnaître sûrement. Les enfants aussi sont sensibles au stress, comme vous le savez, surtout avec les scolarités actuelles, les pauvres. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui développent leur migraine à l'école. Et ce sont des migraines typiques qui valent la peine d'être traitées, d'être prises en charge.
On a aussi beaucoup de questions et beaucoup de témoignages qui nous sont arrivés. On me dit que c'est psychosomatique, point. Oui, mais j'ai envie de dire, oui, c'est psychosomatique, donc il faut ne pas hésiter à consulter et à aller dans des centres qui se chargent aussi des maladies psychosomatiques et à poser des questions aux spécialistes. Il en existe d'autres. Nous, on reçoit souvent un docteur de Montgodine, par exemple, qui le défend et qui le dit. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit ça qu'il faut vous arrêter là. On va plus loin.
Au contraire, psychosomatique, c'est pas du tout péjoratif, c'est essentiel. Et c'est quelque chose, même, c'est un terme merveilleux, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est psyché et soma, et il n'y a pas de barrière entre les deux. Et donc, c'est vrai que psychosomatique ou somatopsychique, peu importe, le corps peut utiliser le verbe et le verbe peut utiliser le corps. Et donc, il faut être attentif à toute manifestation psychosomatique. C'est une souffrance. Il faut absolument, au contraire, à la fois traiter le psyché et le soma. Il faut traiter le symptôme, donc traiter le mal de tête, en l'occurrence, si on parle de ça ici. Et il faut traiter le psyché si c'est ce départ-là de la déclaration du symptôme.
Docteur Gillet, encore une fois, on n'aura pas fait le tour de la question, mais je suis sûre qu'on aura au moins pu répondre à quelques questions que les auditeurs se posaient. Et puis, on aura pu parler des traitements. Cela dit, on pourrait encore refaire des émissions sur le sujet. On n'hésitera peut-être pas d'ailleurs à le faire. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu dans
avec
cette
plaisir.
Émission
merci à
pour
vous.
Nous parler de tout cela. Je rappelle que donc le 12 septembre, c'est la journée européenne de la migraine et qu'à cette occasion, eh bien, la Ligue belge contre les céphalées organise une conférence. Si vous voulez avoir des renseignements et vous y rendre, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Ligue belge contre les céphalées, www.céphalées.be, céphalées sans S. Donc, www.céphalées.be. On se quitte avec Ayo. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de la première.